Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine de 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Et c'est déjà mercredi, le soir du bouleversement, du pivot, soirée pivot.
Bah, tous les soirs, c'est bouleversement.
Soirée pivot. Bonsoir, mon cher Rudy.
Bonsoir, mon cher Hugues. Je disais rien et je me disais...
Qui va y aller ?
Parce qu'en général, j'y vais, mais...
Oui, c'est bien, là aussi, tout est possible. Pourquoi pivot ? Mais parce que, généralement, nous commençons à évoquer l'actualité des nouveautés sur les plateformes le mercredi.
Ouais. Écoutez, si vous sortez vos vieux coucous du mercredi, des plateformes, du basculement, je vous sors ma boîte à chatons.
D'accord.
Okay.
D'accord, mais pourquoi pas, mais d'accord. D'ailleurs, Guillaume Guéremans, qui est aux manettes, n'est pas du tout contraire.
Non, donc, il est très curieux.
Profitez-en, voilà, hein, c'est encore le mieux.
Tous les soirs, c'est bouleversatif, mais ce soir, c'est en plus le basculement et le bouleversement.
Oui. Mais on tease comme on peut, hein, mon cher Rudy, qu'est-ce que vous voulez?
Ben oui.
On est quand même avec notre petite roulotte sur le marché, notre petit cabas.
Oui. C'est vrai.
Alors, on dit il est frais mon poisson, on fait tout ce qu'on peut, hein.
Oui.
Il n'y a pas 47
poulet,
solutions.
Hein, qu'on vend,
oui, les carrevis du poulet aussi, oui, tout
à
ça.
À la broche.
Voilà. Rappelons que nous sommes aussi dans un état de fébrilité intense parce que demain nous affrontons les 400 spectateurs, auditeurs au cinéma Le Parc à Liège.
Wow.
Et ça, quand même, déjà 350 à Namur, c'était nourri.
C'était chaud.
Mais 400, même un peu plus que 400, c'est un nouveau défi.
Moi, j'emmène mon préparateur physique.
Ouais. Oui, mais vous avez tous les plans de Michel Drucker. De temps en temps, vous avez son hélicoptère pour arriver rapidement après l'émission. Et vous avez également son préparateur physique. Parce que tonton Michel, il les partage, de toute façon. Donc,
Attendez, quelqu'un demande un poulet à la diarre. Je vous le conseille pas.
Oui, non. Non, ça pique trop fort. Qu'est-ce que vous avez de piquant, de frais, de frais du marché, de réjouissance dans l'étalage musique ?
Une idée où je me dis qu'un jour, on pourrait juste faire un bonjour d'une heure.
Mmh.
On deviserait sur...
Oui, mais ça, c'est dans l'émission Top Secret.
Oui,
ça n'intéresse personne. Le bonus caché de 5 heures, qui n'est pas encore diffusé, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que vous avez sur votre étal musical ?
Encore une drôle d'histoire.
Ah !
Il y a plein d'histoires, non pas drôles, mais des histoires qui sont de drôles d'histoires.
Oui, c'est différent.
Pas forcément... En même temps, c'est assez jubilatoire pour ceux à qui ça arrive.
Mmh. On ne dirait pas « funny story », but « weird story ».
Weird.
Weird.
Kinky story.
Kinky story.
Kinky.
Voilà.
Vous connaissez un groupe qui s'appelle TV Girl ? Non. Non, ne cherchez pas. Groupe californien qui existe depuis 14-15 ans. Groupe qui a lentement construit une carrière très très modeste, une carrière un peu de niche. C'était le but, c'est de la musique un peu indie, très 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 simple, qui ne cherche pas une exposition maximale. Mmh. Voilà, donc ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, à savoir un public restreint mais fidèle. Or, ce groupe va venir cet été jouer chez nous, hors festival, le 21 août. Alors, ils n'ont pas sorti grand-chose depuis leurs 15 ans d'existence, et on pourrait imaginer un groupe qui revient, comme d'autres le font, pour célébrer 15 ans de carrière, et qui s'offre une rotonde du Botanique, un AB Club, un Trix à Anvers. Mmh. Non, c'est le Lotto Arena.
Ah oui ?
Oui. Alors pourquoi ?
Donc sans locomotive, sans rien. Sans rien.
Sans rien. Mmh. Ils ont quand même obtenu... Oui, c'est une bénédiction.
De placer une chanson dans une série.
Même pas.
Non.
Plusieurs de leurs chansons, il y a eu comme ça une sorte d'entraînement. Chansons qui datent de 2014 ou 2016, qui sont devenus pendant l'année 2023 et donc avec une résonance sur 2024, des trends sur TikTok. Donc un public qui n'était pas né, ou presque, au moment où ces chansons ont été publiées, se les sont appropriées aujourd'hui et en ont fait des hymnes d'une génération, mais avec pratiquement 10 ans de décalage. Et ce groupe, aujourd'hui, à travers quelques-unes de leurs chansons, le problème, c'est qu'en concert, ils vont chanter et interpréter un répertoire beaucoup plus large. Mmh. Donc, comment les gens vont réagir?
Et puis, TikTok, c'est court.
Oui, TikTok, c'est court. On sait que certains groupes attirent un public uniquement pour une fraction de 15 secondes de TikTok et qu'ils jouent à répétition pendant les concerts parce qu'ils savent très bien que les gens sont venus pour ce bref extrait, et donc ils essayent de le mettre en valeur et de l'étendre, voilà, d'en donner une version extensive pour le public qui est venu. Ici, c'est quand même pas ça, c'est plusieurs chansons, mais quand même pas toute une carrière et tout un répertoire, mais le groupe arrive au Lotto Arena TV Girl avec 10 ans de retard.
C'est combien de milliers de spectateurs?
Lotto Arena, on doit tourner autour des 10 000, je vais vérifier.
Ouais.
Autour des 10 000. Ah ouais, quand même. C'était pas destiné à ça, mais voilà, c'est la magie TikTok. Très belle année pour TV Girl.
Et donc on écoute un des deux fameux morceaux.
Absolument. Lover's Rock, qui est aujourd'hui un hymne absolu pour une génération différente de celle à laquelle le groupe s'adressait il y a 15 ans. TV Girl, partagé des centaines de millions de fois.
Bah, c'est encore assez agréable.
Bah ouais, c'est bien que ça arrive à ce TV Girl plutôt qu'à d'autres groupes. Donc vérification faite avec Guillaume. En configuration sport, c'est 5000 places, le Lotto Arena. Mais si on libère le terrain, on peut monter à 8050. Voilà, j'étais un peu optimiste avec 10 000, mais
d'accord.
8000.
Alors, c'est une période assez faste pour Netflix, je trouve. Alors, évidemment, c'est subjectif, ça dépend des goûts et des tentations. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de séries, de nouvelles séries qui arrivent et qui sont diablement bien cotées. Une des références fiables, c'est évidemment toujours IMDb, parce que c'est quand même le site de référence, et c'est assez sérieux au niveau des cotations. Alors, la semaine dernière, je vous parler de mon enthousiasme sans réserve pour la nouvelle version de Ripley en noir et blanc. Et cette semaine-ci, il y a une autre série qui suscite pas mal d'échos et une critique très très positive. Elle s'intitule Baby Reindeer, et en français, puisqu'on la trouve sous le titre français, Mon Petit Reine. Ce n'est pas une nouvelle version de Jodie et le Fan. Il n'est pas question d'animaux. C'est un petit adjectif charmant que une femme, Martha Scott, très enthousiaste. C'est comme ça qu'elle appelle l'objet de toute son attention. Et l'objet de toute son attention, c'est Donnie Dunn. Alors, c'est une série en 7 épisodes. Ça varie entre une demi-heure et 40 minutes. Et Donnie Dunn est écossais. Il est barman, faute de mieux. Il est barman parce que son rêve, il veut devenir comédien. Comédien, c'est humoriste, c'est acteur de stand-up. Il a une sorte de costume écossais totalement improbable. Il a des accessoires parfaitement idiots, et dans des arrière-pubs, il essaye de percer avec des sketchs vraiment pas du tout au point. Il faut bien le dire, c'est assez pitoyable, ça met un peu mal à l'aise, mais toujours est-il, comme il ne perce pas, il est barman. Et comme barman, il est ému un soir par une dame de très très forte corpulence, Martha Scott, qui a été avocate, qui a fait plein de métiers, qui là est assez déprimée. Et bon, il est touché par cette femme, il lui offre un verre, enfin, il sympathise. Bien mal lui en prend, parce que cette femme, Martha, va véritablement le poursuivre de ses assiduités, ne va plus le lâcher d'une semelle, et en fait, elle est C'est le mélange entre mythomanie et érotomanie, c'est-à-dire qu'elle croit vraiment qu'il y a quelque chose entre eux, que Donnie est l'homme de sa vie, et donc elle va le poursuivre, elle va aller dans les salles où il se produit, rire bruyamment quand personne ne rit, le soutenir, et ça crée un malaise grandissant. Mais en même temps, ce Donnie n'ose pas aller la dénoncer à la police. Il est terriblement horripilé par ce harcèlement de plus en plus intensif. Elle lui envoie des mails, des messages. Il a fait l'erreur de... Elle a trouvé son numéro de téléphone. Enfin, ça devient vraiment très, très, très oppressant. Mais Donnie ne parvient pas à franchir le pas. Il l'aime malgré tout. Il a une attitude encore assez ambiguë vis-à-vis de cette femme. Il reste quelque part un peu pris de pitié. Et donc, plus la situation dure, plus elle s'envenime. Et il cherche à comprendre aussi pourquoi il a cette espèce de lâcheté et d'attitude extrêmement introvertie face à cette menace. Parce que quand il va en parler à la police ne comprend pas, ne le croit pas non plus. Et ça le force à se plonger dans son propre passé et dans ses propres traumatismes et justement ses débuts de stand-upper à Édimbourg, et c'est un épisode particulièrement troublant, ses débuts de stand-upper se sont passés... Là, il a été repéré par une sorte de mentor, un scénariste professionnel, qui ne lui a pas fait que du bien, il ne lui a pas fait que donner des bons conseils. Et donc, quelque part, il est obligé de faire son introspection pour comprendre son attitude par rapport à cette femme terriblement envahissante. Au début, ça commence plutôt comme une sitcom humoristique, comme les anglo-saxons en ont le secret, et plus on avance, plus on est dans quelque chose de bizarre, de malaisant, pour employer un adjectif très à la mode, mais effectivement, le malaise grandit, et le malaise est d'autant plus fort que qui incarne ce Donnie Dunne, eh bien, c'est un acteur écossais qui a écrit, coproduit et qui joue le rôle principal, qui s'appelle Richard Gadd. Et tout est né d'un spectacle, un seul en scène qu'il a créé en 2019 à Édimbourg, qui racontait son histoire parce qu'il a effectivement été harcelé. Alors, évidemment, ce qui est le premier élément troublant, c'est cet homme qui a priori est capable de se défendre, qui est harcelé par cette femme terriblement envahissante, tant physiquement que moralement. Il y a une sorte d'inversion, alors qu'aujourd'hui, évidemment, quand on parle de harcèlement, c'est souvent dans l'autre sens. Et là, justement, il s'est nourri de son expérience personnelle et de ses propres... Comment est-ce qu'il s'est libéré de ses propres démons. Il est très ça fait un petit peu penser à du Danny Boyle à certains moments dans la à du Trainspotting dans la manière de tourner visuellement les démons et les introspections de ce personnage, et face à lui il y a cette femme qui a priori a tous les... C'est un peu une sorte de mama qui est plutôt rassurante et sympathique. Elle est jouée par Jessica Gunning, formidable actrice qui avait joué entre autres dans Pride et qui arrive avec son espèce d'énergie qui déboule dans le pub comme dans les salles de spectacle, et elle prend toute la place et on a peine à lui en vouloir parce qu'elle a priori elle a l'air vraiment mais la bienveillance incarnée, et c'est ça qui est très troublant, c'est que la harceleuse est plutôt sympathique tandis que le harceleur n'a pas l'air d'avoir la conscience tranquille, est plutôt un type assez torturé, et c'est évidemment ça qui est intéressant, et le fait que Richard Gadd ait réussi à s'extirper de son propre vécu pour y ajouter une dose de fiction, puisqu'il s'appelle, une fois encore, il ne s'appelle pas Richard Gadd dans l'histoire, il s'appelle Donnie Dunne. Il y a clairement une inspiration autobiographique, mais il l'a transcendé en autre chose. Il est vraiment parvenu à faire quelque chose de totalement inclassable, qui parfois flirte avec l'humour noir, est souvent dans le registre drame psychologique, donc c'est totalement inclassable, et c'est surtout une série aussi qui peut apparaître, une mini-série, mais qui peut apparaître comme redondante, évidemment, parce qu'il y a des moments où on tourne en rond, puisque on est dans le processus du harcèlement. On croit que c'est terminé, et hop, revoilà Martha qui ressurgit comme une diablesse d'une boîte. Et ça, c'est évidemment cette espèce de côté obsessionnel et lancinant rend la série d'autant plus envoûtante. On se dit, mais comment est-ce que ça va finir et quand est-ce que ça va finir aussi, parce que on est dans un processus narratif quasi cyclique, quoi. Donc c'est assez culotté d'avoir réussi à transposer ce qu'on imagine. On imagine que le spectacle sur scène devait tenir en une heure et demie, un récit à la première personne, et d'avoir réussi à faire exister aussi les autres personnages. J'ai envie de dire, c'est pas du tout une comparaison valable, mais c'est un peu comme quand Guillaume Gallienne a dû transformer Les Garçons et Guillaume à table, qui était un one-man show, il jouait tous les personnages, et arrivait à faire incarner les autres personnages, à en faire une fiction, à faire un film. Ici aussi, il fallait que les autres personnages existent.
Ou Fleabag,
voilà,
qui était un stand-up.
Exactement, et donc c'est toujours le défi d'arriver à une discipline plus réaliste qu'est le cinéma ou la série télévisée, faire exister les autres personnages, leur donner chair, leur donner corps, même si le personnage pivot est évidemment ce personnage de Donnie Donne. Donc très très intriguant, vraiment très très intéressant, et une fois encore tout à fait inclassable. Et c'est rassurant que des grosses plateformes de streaming, on sait bien que on va avoir une politique peut-être plus normative dans les mois ou les années à venir, et aller plutôt vers des choses qui marchent d'office, mais qu'il y a encore des objets atypiques comme celui-là.
Ça dépend combien ça coûte.
Voilà, c'est ça.
Exact. Si c'est cher et que ça ne marche pas, c'est un problème. Voilà. Si c'est pas cher et que ça marche pas, on aura essayé.
Voilà.
C'est pas grave.
C'est ça. C'est évidemment une question d'économie d'échelle. Donc voilà. Vous le trouverez sous le titre français, Mon petit reine. Donc, gentil petit surnom. Donné par Martha Scott à Donnie Donne, comme ça vous avez tout de suite l'explication du titre. Et évidemment, ça utilise aussi très bien, mais ça on en a déjà souvent parlé dans la nouvelle écriture, ça utilise aussi bien les mails, les SMS, les textos, les envois de textes tapés frénétiquement pour rendre le harcèlement encore plus frénétique et multimédia.
Et succès ou pas, j'imagine qu'on s'arrête à une saison.
Oui, de toute façon. Mais déjà, assez grand succès critique et salué comme une des créations importantes arrivées ce printemps. Voilà, donc Mon petit reine, c'est sur Netflix. 7 épisodes. Je vois parfois qu'il est catalogué comme 8 épisodes, mais comme tel, il a été découpé en 7 épisodes sur Netflix. Voilà.
Très bien. Et ça vient d'arriver.
Et ça vient d'arriver. C'est tout frais. Frais du marché. On essaye d'aller, d'être avec notre carriole. Et entre deux giboulées, deux intempéries, on essaye.
Plus frais que notre poulet à la diable, voilà. Ou poulet curry relevé.
Voilà.
Je vous parlais de groupes revenus de loin, enfin dans la ligne du temps. Mmh. Je voulais vous parler d'un autre groupe qui lui revient aussi de loin avec pratiquement 40-50 ans de carrière. Si vous avez bien suivi les leçons de vocabulaire de la semaine des 5 heures, le shoegazing n'a plus aucun secret pour vous. Donc c'est fixer ses chaussures en donnant un concert. Pourquoi ? Parce qu'on regarde les pédales de guitare.
Oui, c'est ça. Oui. On doit bien jouer avec les différentes pédales et les fils au sol.
Exact.
Et oui.
Donc on doit savoir qu'on doit appuyer sur les pédales pour les effets. Un des grands groupes de ce mouvement shoegazing en Angleterre, c'était venu d'Oxford, le groupe Ride, qui existe depuis 88 et qui viennent de sortir un nouvel album après 5 ou 6 ans de silence. C'est toujours Mark Gardner et Andy Bell, le groupe Ride, et qui finalement renaît, non pas de ses cendres, parce qu'ils n'ont jamais réellement arrêté, mais continue à faire la même chose, et au bout d'un moment, c'est le cycle de la vie, hein, la même chose redevient quelque chose à la mode. On a vu Slow Dive qui a rempli le Cirque Royal contre toute attente il n'y a pas très très longtemps. Les retours en série de Jesus and Mary Chain qui seront encore de nouveau à la baie avec un nouveau disque. Ici, il y a un disque, mais pas de concert. C'est donc le retour de Ride. Leur album a pour nom Interplay. En voici un extrait. « Ride avec The Last Frontier. C'est sur le nouvel album.
Et des pédales,
sorti.
Donc.
Il y a plein de pédales.
Il y a plein de pédales.
Et il y a tellement de pédales qu'elles sont vissées sur une énorme planche.
Ah oui?
Oui, parce que plutôt que de les réinstaller tous les soirs,
ah oui,
on dépose la planche.
Un peu comme l'artisanale méthode Van Klimput pour les feux d'artifice du 21 juillet.
C'est à peu près ça.
La planche à clous, hein, où il lâchait, c'était pas du tout informatisé. À chaque clou, il y avait correspondait un pétard et boum.
Aujourd'hui, c'est un vrai clavier
avec un déclenchement
électronique.
Moi, je trouve un hommage à Georges Alain de la firme Van Klimput qui expliquait bien sa planche à clous pour le feu d'artifice du 21 juillet.
Donc, ça me paraît très bien.
Ah oui, c'était bien. C'était franchement bien.
Mais Ride aussi, c'était bien.
Ouais, donc,
comme quoi, il n'y a pas que des chanteuses coréennes qui font de l'hyperpop.
Voilà.
Bien. Alors, on en a parlé, je pense, c'était pas plus tard qu'hier soir.
C'est hier soir qu'on a parlé d'hirsutisme.
Oui. Oui, hommage
aux femmes à barbe.
Oui, et je vous ai dit, ça sera une semaine.
Avec les poils mis poil à poil, hein, sur le torse de Nadia Tereskiewicz pour jouer Rosalie.
Vous allez vérifier.
Ah, elle l'a expliqué en long et en large dans une interview qui est d'ailleurs visible sur le web.
C'est pas juste un t-shirt transparent.
Non, j'ai demandé,
avec des poils.
J'ai demandé si, en fait, elle avait eu une barbe postiche, puisque donc elle joue une femme, si elle avait une barbe postiche pendant le tournage pour sentir le truc, et puis qu'après, en post-production, ils avaient fait quelque chose de plus réaliste. Pas du tout. C'est une maquilleuse spécialiste du poil à poil qui lui a fait une très très belle barbe et des poils de torse. 4 heures de poil à poil pour arriver à transformer Nadia Tereskiewicz en femme à barbe et en femme hirsute.
C'est peut-être la même spécialiste du poil qui a travaillé sur le film dont je vais vous parler parce que c'est la semaine du poil.
Il y a le maçon célèbre, mais il y a aussi la femme du poil, voilà.
La femme du poil.
Oui, oui, oui.
Je voulais vous parler d'un film qui est sorti aux États-Unis il y a 3 ans, mais ce film
jamais
est resté...
Sorti chez nous. Oui, mais en plus, pendant le Covid, il y a énormément de films qui sont restés sur les étagères. Hein.
Absolument.
Ouais.
Et ce film s'appelle Wolf Boy.
Mm-hmm.
Ça, j'allais dire Wolf Boy en français. En anglais, c'est The True Adventures of Wolf Boy, ce qui est très très différent, parce que les véritables aventures du garçon-loup, ou simplement le garçon-loup, ça donne 2 portes d'entrée au film, un plutôt horrifique, l'autre plutôt énigmatique.
Oui.
On va plutôt prendre la porte énigmatique.
Oui, c'est ça.
Ça raconte quoi ?
On n'est pas dans un film bif.
Non, on n'est pas dans un film bif. Ça raconte l'histoire de Paul qui a 13 ans et qui souffre d'hypertrichose. Donc l'hypertrichose...
Après l'hirsutisme, l'hypertrichose.
L'hirsutisme est une sous-catégorie de l'hypertrichose. L'hirsutisme, ce n'est que de l'hypertrichose chez les femmes. C'est-à-dire qu'elles ont une pilosité abondante là où normalement les hommes ont des poils.
Mmh.
L'hypertrichose générique, et comme c'est le cas pour un jeune ado de 13 ans, c'est le corps entièrement couvert de poils partout et de longs poils qui le font ressembler à un animal, on va dire un chien, un chat, un loup, d'où ce nom de Wolf Boy. Alors, rapidement, c'est une maladie ultra rare. 1 cas sur 10 milliards, j'ai un peu cherché, c'est totalement authentique, comme dans le film Rosalie, qui je pense s'inspire...
Était inspiré de Clémentine Delay, authentique femme à barbe, oui.
Mais des hommes ou femmes souffrant de cette maladie rare, de ce syndrome d'hypertrichose, dans l'histoire, on a répertorié depuis le Moyen-Âge environ 50 personnes.
Ah oui.
Donc c'est extrêmement rare. Mmh. Donc ici, ce n'est pas une histoire vrai, mais qui s'inspire de personnes qui ont été dans cette situation. Et donc, on suit ce petit garçon, ce jeune ado, ce grand garçon de 13 ans qui a cette maladie. Et cette maladie, évidemment, entraîne autour de lui toute forme de moquerie, de raillerie. On lui demande si son père a couché avec un chien, si sa mère est au chenil. D'autant que sa mère... À sa naissance, quand elle a vu ce bébé, elle a disparu de la circulation. Ah, et c'est le père qui
est resté, d'accord.
Oui. Et là, c'est la, les premières minutes du film, on est dans une sorte d'hyper-réalisme avec voilà, des copains de classe qui se moquent, des gens qui se retournent sur lui dans la rue. Ici, il y a truc et astuce, c'est qu'il porte souvent un bonnet dont il finira par se débarrasser, un bonnet qui ne laisse apparaître que les yeux et la bouche. Et un jour, il découvre dans le... dans les archives de la maison, dans une boîte, une carte routière avec un mot de sa mère qui lui dit « Quand tu seras prêt, viens me retrouver là ». Et donc il décide de partir seul, de son initiative, sans son père, de partir pour un long périple qui va le mener dans un autre état que celui dans lequel il habite et qui va le conduire chez sa mère qui devrait lui faire une révélation. Et là, on bascule dans tout à fait autre chose.
Ah.
On bascule dans plutôt un conte ou une fable où ce périple de ce Paul Wolfboy va en fait être l'occasion de rencontres avec des personnages malveillants, d'autres bienveillants. Ça fait un peu penser à l'histoire de Pinocchio, où dans son périple, il rencontre John Turturro, par exemple.
Qui grand coquin.
Voilà, qui est une sorte de mix entre le chat et le renard. Mmh. Voilà. Mais il va aussi rencontrer d'autres personnages qui vont, quelque part, le révéler à lui-même, une petite fille qui se fait appeler la sirène et dont on comprend qu'au départ c'est un petit garçon mais qui se rêve et qui se veut et qui est au fond de lui une petite fille. Il va rencontrer aussi une fille qui se fait appeler la pirate et qui est borgne, qui a un cache-œil façon pirate et des cheveux rouges cerises.
On irait vers du Tim Burton dans la deuxième partie.
On est un peu chez Tim Burton, on est un peu chez Jeunet, on est vraiment dans un univers et des décors hyper léchés, notamment il y a une scène de karaoké très onirique où la petite sirène va chanter dans ce karaoké où tout le monde, on est dans une sorte de safe space où tout le monde a le droit d'être qui il enlève son bonnet, voilà, et personne ne lui fait de remarques. Et là, effectivement, on bascule dans un univers avec un esthétisme hyper léché, et le réalisateur, voilà, est quelqu'un qui signe son premier long métrage, mais avant cela, il a fait énormément de pubs, et en particulier pour des produits de luxe.
Ah,
où
mais
là,
Il est tchèque. Ah, ça explique tout. Il y a quand même une grande tradition de la fantasmagorie de l'ombre chinoise et tout ça dans l'ADN tchèque. Ah oui, c'est important.
Ouais, oh. Ici, on est vraiment dans un voyage un peu onirique, un peu sous forme de fable. Donc, ce n'est pas l'histoire vraie de Wolfboy, c'est une espèce d'histoire
de
conte fantasmé où pendant son voyage avec ses compagnons d'aventure, il va un peu découvrir le monde parce qu'il sortait peu de chez lui pour des raisons qu'on peut comprendre, mais quelque part, en appréhendant le monde, cette petite bande d'estropiés de la vie va aussi expliquer leur propre vision du monde et c'est quelque part eux découvrent le monde mais le monde les découvre aussi et découvre quelle vision ils peuvent avoir par rapport à leur état de marginaux.
Dites, je vois que dans le générique il y a la fille de Bono.
Mais oui, alors justement ce qui est formidable c'est que dans le rôle de ce Wolf Boy, on a Jaden Martell, vous savez c'est ce jeune comédien qui n'est passé ni par des séries Netflix, ni par des comédies musicales, mais qui trace sa route, on l'a vu dans Hit, il était aussi ce petit garçon très inquiétant dans Defending Jacob, cette série Apple TV.
Formidable,
où un enfant était accusé,
était suspecté.
De...
Oui, et les parents étaient joués par l'homme qui joue Captain America.
Captain America.
Oui, c'était un rôle sérieux.
Chris Evans.
Oui. Et la mère était jouée par Michelle Dockery, ex de Downton Abbey. Oui.
Et donc, dans le rôle de cette sirène, on a une jeune actrice qui est authentiquement une jeune actrice transgenre, voilà, qui fait ses premiers pas au cinéma. On l'avait vu dans la série Hellworld. Elle s'appelle Sophie Janamor. Et on a effectivement la pirate Eviusson, qui est totalement méconnaissable parce que beaucoup plus jeune, c'est un de ses premiers rôles. Elle a les cheveux rouges, elle a un bandeau de pirate, elle est absolument formidable. On croise aussi John Turturro, je le citais, on croise Chloé Sevigny. Voilà, on a une très très belle brochette d'acteurs qui se sont réunis autour de ce projet, qui est davantage voilà, une fable sur le droit à la différence. Mais on n'est pas dans ce concept Disney, vis ton rêve, deviens ce que tu es. C'est pas du tout ça. On est dans une approche où il n'y a pas finalement une fin heureuse, mais un partage de cohabitation avec des visions différentes du monde selon le point de vue d'où on se place et le point de vue qui nous est offert.
Et tout ça en 1h28, s'il vous plaît.
Tout ça en 1h28.
Oui, ce qui ne serait pas le cas chez l'ami Jean-Pierre Jeunet ou chez Tim, qui prendrait sûrement plus de 2 heures.
C'est assez mignon, c'est un peu à rapprocher. Vous vous souvenez de ce film incroyable avec Cher qui s'appelait Masque?
Oui, et même plus récemment, le film avec Jacob Tremblay.
Wonder.
Wonder,
oui. Où des enfants avaient une déformation du visage. Là, des histoires vraies. En revanche, et qui étaient des histoires qui voilà, apportaient une espèce de regard bienveillant. Enfin, Masque, c'était...
C'était Peter Bogdanovich qui avait réalisé. Mais c'était un garçon plus âgé, déjà.
Oui, c'était Rick Stoll, avec une bande de motards. Ouais. C'était en 85, on parlait peu de ce type de... Enfin, c'était pas des sujets qui étaient abordés volontiers au cinéma, et Cher tirait vraiment son épingle du jeu dans ce film. Voilà, au scénario, donc c'est une...
Cher n'avait pas de masque, d'ailleurs, à l'époque encore.
Non. Aujourd'hui, Masque pourrait être un biopic de Cher. C'est une histoire totalement de fiction.
Oui, hein, vous l'avez dit.
Wolf Boy.
Oui,
et donc l'histoire a été écrite par une fille qui s'appelle Olivia Dufaux, et qui en fait travaille dans la boîte de production de Seth Rogen, et donc elle est souvent en renfort caisse sur des projets sur lesquels travaille comme producteur ou comme acteur Seth Rogen. Voilà, ça s'appelle Wolf Boy, et on peut voir ça sur Amazon Prime.
Ok. C'est bien noté.
Ok.
Ok.
Okay. Et vous êtes en plein dans la mouvance country.
Non, c'est moi. Oui, en quelque sorte, oui. C'est ma tendance aussi. Je suis tout fort à l'écoute des échos du Bif qui traversent une zone de turbulence.
C'est vrai.
Donc, sur laquelle nous n'avons pas revenu, puisqu'on n'y était pas.
On n'y était pas.
On n'y était pas.
On ne va pas dire, on m'a dit qu'on a dit que...
Non, ça je laisse à d'autres médias.
Ceci dit, on pouvait s'en douter.
Bon.
Le 27 mai au Botanique, non pas une jeune chanteuse américaine, coréenne, australienne, néo-zélandaise, mais une jeune chanteuse mexicaine.
Oh.
Elle a pour nom Mariana de Miguel. Et elle se produit sous le nom de Girl Ultra. Et c'est absolument formidable.
Girl Ultra.
Girl Ultra. Oh. Pour ceux qui aiment Rosalia, voilà, toute cette mouvance reggaeton. Girl Ultra, elle est le 27 mai au Bota, et sa nouvelle chanson, qui est absolument irrésistible, a pour nom Rimmel, comme du rimmel.
Ah ouais.
Emballé, pesé en 2 minutes chrono, c'était Girl Ultra.
Ça il va pas y avoir du temps pour la génération TikTok. Ça sera.
C'est déjà prêt pour TikTok.
Mais voilà, c'est ça. Alors, c'est la théma reine aujourd'hui.
Oui.
Je vous ai parlé d'une série qui s'appelle Mon Petit Reine, mais là, c'était tout figuré. C'était une sorte de.
Mon petit poussin, quoi.
Mon petit poussin, voilà, Baby Reindeer. Ici, il est vraiment question des reines, les vrais, les purs, ceux qui font rêver les enfants quand ils pensent au Père Noël, les reines, quoi. Et on est dans un film, non pas dans une série, qui s'appelle Stolen, en fait, en traduction anglaise, c'est Stolen, et en suédois, c'est Stöld, film qui est apparu aussi parmi les nouveautés Netflix. Et c'est un film, on peut dire que c'est dans le genre policier, mais c'est relativement intriguant dans la mesure où les principales victimes, justement, ce sont des reines qui sont décimées par d'étranges braconniers. Donc on est dans la région de la Suède, la Laponie, et on suit une petite fille qui... a grandi dans une famille où l'élevage de rennes est vraiment l'occupation principale, et elle n'a connu que ça, et justement, toute petite, elle assiste déjà à un meurtre sauvage du règne qui était justement, dont elle était la marraine en quelque sorte. Il y a une coutume qui pousse justement les parents à ce que leurs enfants choisissent, pour les responsabiliser en quelque sorte, choisissent un règne de prédilection, et donc traumatisme enfantin pour cette pauvre jeune fille, et on la retrouve 10 ans plus tard, qui a maintenu sa vocation de vouloir continuer à vivre au sein d'un élevage de rennes, mais malheureusement rien n'a été résolu. Et pour cause, la police est particulièrement apathique, met des heures à réagir, il y a très très peu d'indices, il y a peu de preuves, et on voit aussi combien les déplacements sont difficiles, puisque on est dans ce pays enneigé où on ne se déplace qu'en moto de neige, parfois un déplacement pour constater les dégâts peut prendre 1 voire 2 heures, et donc cette police est lente, peu coopérative, d'autant plus que le peuple Sami, qui est les lapons éleveurs de rennes, sont un peu considérés comme les romanichels de l'endroit. Et c'est assez étonnant, parce qu'on est on découvre un racisme de blanc envers des blancs. On n'est pas par rapport à une autre couleur de peau, par rapport à d'autres. Non, il y a simplement le fait que visiblement ces éleveurs de rennes qui tiennent à leur tradition sont très très mal perçus par une frange de la population qui est beaucoup plus orientée vers la vie moderne, vers la rentabilité. Tiens, il y a une usine qui doit s'installer une mine à ciel ouvert qui doit s'ouvrir, et elle va s'ouvrir sous le parcours de transhumance des rennes, et donc conflit d'intérêts, deux façons d'occuper l'espace, deux visions de la Laponie qui s'opposent, et donc on est devant, je disais, on peut cataloguer ça dans les polars, mais on est presque devant, je dis pas un documentaire, mais en tout cas un film avec une vraie dimension sociologique extrêmement réaliste, où on découvre justement cette espèce de racisme ordinaire totalement hallucinant, et combien il est difficile de dans une région qui, a priori, on se dit, nous qui avons un regard extérieur, on se dit mais il y a de la place pour tout le monde, et de voir que justement cet espace, ces grands espaces enneigés sont convoités, et donc le fil conducteur, c'est évidemment ces massacres à répétition, et ces massacres qui ont l'air totalement gratuits, en plus de rennes et de familles de rennes, et ce qui plonge la pauvre héroïne dans un état de, à la fois d'abattement et de révolte, et elle sert en quelque sorte de fil conducteur. Il faut bien dire qu'en image, c'est hallucinant, hein. On est effectivement dans le grand blanc, avec des forêts à perte de vue, avec ses déplacements en permanence, avec ses motos de neige. Il y a un moment, il y a une poursuite. C'est amusant parce que, je crois qu'il y a ça dans un James Bond, mais dans un James Bond, ça dure 2 minutes et ça n'a pas du tout le caractère vital que ça a ici. Ici, tout est vraiment une question, si pas de vie ou de mort, mais en tout cas, c'est une question de survie économique. Il est évident qu'ils ne sont pas éleveurs de rennes uniquement pour, c'est pas un hobby du dimanche, c'est un vrai métier, et c'est ce que montre bien ce film, qui est réalisé par une certaine El Marja Eira. Bon, il est clair que les acteurs nous sont totalement inconnus, mais ça fait partie justement de cet exotisme que permet aussi les plateformes qui vont chercher des films ou des séries dans toutes les directions.
C'est joué en sami,
oui.
Donc c'est la langue de cette communauté qui sont, vous dites exotiques, ce sont des Suédois, des natifs. Mm-hmm. On parle souvent des Américains natifs ou en Australie, des aborigènes qui sont les...
Oui. Ceux-là sont immédiatement stigmatisés par leur couleur de peau. Ici, pas du tout. Je dis, c'est ça qui est aussi
Mais ici, ils ont leur tradition, leurs vêtements, leur langue. Ceux qui quittent sont considérés comme des traîtres, ceux qui vont travailler à la ville.
Oui,
ils veulent perpétuer cette tradition de cette communauté. Cet élevage de rennes est extrêmement important.
Avec une façon façon aussi de faire connaissance. Ils ont on a aussi droit à une scène de fancifère, en quelque sorte, où on voit leur danse, qui est assez intéressante, qu'on importe très bien d'ailleurs dans les soirées COD, parce que je trouve qu'elle a assez bien...
Mais avec les mêmes costumes.
Ils ont
des costumes absolument formidables.
Merveilleux. J'ai l'impression... Ça me rappelle un bouquin de mon enfance qui s'appelait Nos amis du monde entier, de l'illustrateur anglais Richard Scarry, et il y avait une histoire dans chaque pays, on voyait une histoire qui se déroulait en Laponie avec ses petits bonnets colorés. On a l'impression que c'est quelque part les Péruviens les Péruviens du Grand Nord.
Enfin, Ceci dit, si j'ai bien compris, les traités de Lapon, c'est une insulte.
Oui, c'est... Et il y a même dans les sous-titres espèce de sale Lapon, quoi,
oui,
en gros.
C'est une insulte. Oui. Ce sont des Samis.
Ce sont des Samis, voilà. Et donc ça s'appelle... Stöld.
C'est complètement hors tout.
C'est hors tout.
Oui.
C'est pour ça qu'on essayait de dire film policier, mais une fois encore, les victimes sont des reines.
C'est aussi politique,
c'est ethnographique.
Ethnographique.
Voilà. C'est une sorte d'exploration du monde, mais avec une histoire. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce que franchement, par les temps qui courent, bon, quand même, en plus, avoir une bonne histoire. Donc voilà.
Et des belles images.
N'hésitez pas. Voyez-le quand même. Je ne sais pas ce que vous avez comme téléviseur chez vous, mais si vous avez plusieurs, choisissez le plus grand. Hein.
Oui. Parce que c'est celui qui a des bons contrastes.
Il y a des bons contrastes.
Il y a des films où c'est trop noir, là, c'est très très blanc.
Voilà, donc il faut,
très blanc.
Idéalement, ça mérite quand même un écran de qualité.
Il y a des ballets de reines.
Oui, incroyable.
Absolument incroyable.
On a presque l'impression de, comme on aurait des nuées d'oiseaux dans le ciel, comme on aurait des nuées d'oiseaux au moment des migrations. On a presque l'impression parfois de voir une migration de rennes sur la neige.
Des ballets de rennes vus d'en haut qui sont absolument dingues.
Voilà. Donc merci El Marja Eira pour ce Stöld qui est donc visible sur Netflix.
À voir en Sami, hein.
Prenez pas le doublage français, mais non, ça n'a aucun sens. En Sami sous-titré. Voilà.
Français. Sacré Netflix. On en a quasiment fait le tour pour aujourd'hui, non?
Un peu de musique pour se cliquer sur la pointe des pieds. C'est déjà pas mal. La thème arène est quand même solide et consistante. Avec en plus un peu d'hirsutisme. Ouais. Non, pardon. D'hypertrichose. Un peu d'hypertrichose. C'est bien, c'était à la fois ethnographique, médical. Il y avait un peu de tout. Avec en plus
Il y avait des vieux chanteurs.
Oui. De la pédale.
Une jeune chanteuse mexicaine.
De la pédale au sol.
De la pédale au sol. Et puis, ceux qui reviennent, l'éternel retour. Mais cette fois, écoutez bien, vous allez dire c'est encore du la même chose, Cigarettes After Sex. Mais ils ont, si vous voulez, ils ont bougé de 12,5 degrés.
Mais le morceau précédent était un peu plus rapide, un peu plus trépidant. Oui. Il y en avait un peu plus rapide.
Ici, ils ont...
Au lieu d'être en 16 tours, était quand même passé en 22 tours.
Là, ils ont débrayé, mais on sent bien qu'il y a quand même un petit quelque chose de... Il faut bien écouter, petit truc différent.
D'accord.
Et donc, c'est pour annoncer leur venue à Forêt Nationale en octobre prochain avec un nouveau disque qui sortira pendant l'été. La chanson a pour nom Dark Vacay. Merci à Guillaume Carmens. Merci, mon cher Hugues. À demain.
À demain.
Cigarettes After Sex.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits sur RTBF Ovio.